Chapitre 4 Comment mon oncle se fit passer pour le juif errant et ce qu'il en advint. Cependant, ma grand-mère avait mis sa robe de soie gorge-pigeon qu'elle ne tirait de son armoire que le jour des quatre fêtes solennelles de l'année. Elle avait attaché sur son bonnet rond, en guise de bandeau, le plus beau de ses rubans, un ruban rouge cerise qui était large comme la main et au-delà. Elle avait apprêté son mantelet de taffetas noir brodé d'une dentelle de même couleur, et elle avait tiré de son étui son manchon neuf de poils de loup cervier, cadeau que Benjamin lui avait fait le jour de sa fête et qu'il devait encore au fournisseur. Quand elle fut ainsi attifée, elle ordonna à un de ses enfants d'aller quérir l'âne de M. Durand, un beau bourriquet qui, à la dernière foire de Billy, avait coûté 3 pistoles et se louait 36 deniers de plus que le vulgaire des ânes. Puis elle appela Benjamin. Quand celui-ci descendit, l'âne de M. Durand ayant au flanc ses 2 paniers au milieu desquels s'enflait un gros oreiller bien blanc, était attaché devant la porte et mangeait sa provende de son qu'on lui avait servi dans une corbeille sur une chaise. Benjamin s'inquiéta d'abord si Machecourt était là pour boire un verre de vin en blanc avec lui. Sa sœur lui ayant dit qu'il était sorti, « Oh, j'espère au moins, ajouta-t-il, ma bonne sœur, que vous me ferez l'amitié de prendre un petit verre de ratafia avec moi, car l'estomac de mon oncle savait se mettre à la portée de tous les estomacs. Ma grand-mère n'avait aucune répugnance pour le ratafia, au contraire. Elle agréa la proposition de Benjamin et lui permit d'aller quérir la carafe. Enfin, après avoir bien recommandé à mon père, qui était l'aîné, de ne pas battre ses frères, après moi, qui était indisposé, de demander quand il aurait certains besoins, et avoir donné sa tâche de tricot à la surgie, elle monta sur son bourriquet. Vive la terre et le soleil! Les voisines s'étaient mises sur leur porte pour la voir partir, car à cette époque, voir une femme de la classe moyenne parée un autre jour que le dimanche, c'était un événement dont chacun des regardants cherchait à pénétrer les causes et sur lequel il établissait un système. Benjamin, bien rasé et surabondamment poudré, rouge d'ailleurs comme un pavot qui s'étale au soleil du matin après une nuit d'orage, allait derrière, lâchant de temps en temps, par un hut de poitrine, un vigoureux « aïe !» et piquant le bourriquet de la pointe de sa rapière. L'âne de M. Durand, poussé l'épée dans les reins par mon oncle, allait très bien. Il allait trop bien même, au gré de ma grand-mère, qui montait et descendait sur son oreiller comme un volant sur une raquette. Mais à quelque distance de l'endroit où le chemin de Mouleau se sépare de la route de la chapelle pour se rendre à son humble destination, elle s'aperçut que l'allure de son âne s'assoupissait comme un jet de métal ardent qui s'épaissit et devient plus lent à mesure qu'il s'éloigne du fourneau. Son grelot, qui jusque-là avait jeté un « drlandindin » si fier, si énergiquement accentué, ne poussait plus que des soupirs entrecoupés, pareil à une voix qui agonise. Ma grand-mère retourna la tête pour en référer à Benjamin, mais celui-ci avait disparu, fondu comme une boule de cire, escamoté, perdu comme un moucheron dans l'espace. Personne ne pouvait lui en donner des nouvelles. Vous devez vous faire une idée du dépit que fit éprouver à ma grand-mère la disparition subite de Benjamin. Elle se dit qu'il ne méritait pas la peine qu'on prenait pour son bonheur, que son insouciance était incurable, et que toujours il y croupirait, que c'était un marais aux eaux duquel on ne pouvait donner un cours. Elle eut un moment envie de l'abandonner à sa destinée et même de ne plus lui plisser ses chemises. Mais son caractère de reine l'emporta. Elle avait commencé, il fallait qu'elle finît. Elle jura de retrouver Benjamin et de le conduire chez M. Minxit, dut-elle l'attacher à la queue de son âne. C'est par cette fermeté de résolution qu'on mène à leur fin les grandes entreprises. Un petit paysan qui gardait ses moutons à l'embranchement des deux chemins lui dit que l'homme rouge qu'elle avait perdu était descendu où il y avait à peu près un quart d'heure vers le village. Ma grand-mère poussa son âne dans cette direction, et tel était l'ascendant que lui donnait son indignation sur ce quadrupède, qu'il se mit à trotter de lui-même par pure déférence pour le cavalier, et comme s'il eût voulu rendre hommage à son grand caractère. Le village de Moulot avait un air de mouvement tout à fait inusité. Les moulottas, ordinairement si rassis et au cerveau desquels il n'y a jamais plus de fermentation que dans un fromage à la crème, semblaient tous avoir le transport. Les paysans descendaient en toute hâte des coteaux voisins. Les femmes et les enfants couraient en s'appelant les uns les autres. Tous les rouets étaient délaissés et toutes les quenouilles chômaient. Ma grand-mère s'informa de la cause de ce mouvement. On lui dit que c'était le juif errant qui venait d'arriver à Moulot et qui déjeunait sur la place. Elle comprit aussitôt que ce prétendu juif errant n'était autre que Benjamin. Et en effet, elle ne tarda pas à l'apercevoir du haut de son âne au milieu d'un cercle de badauds. Au-dessus de ce ruban mouvant des têtes noires et blanches, le pignon de son tricorne s'élevait avec une grande majesté, comme la flèche ardoisée d'une église au milieu des toits moussus d'un village. On lui avait dressé sur la place même une petite table où il s'était fait servir une demi-bouteille et un petit pain, et devant laquelle il allait et venait avec la gravité d'un grand sacrificateur, tantôt avalant une gorgée de vin blanc, tantôt rompant un morceau de son petit pain. Ma grand-mère poussa son âne au milieu de la foule et se trouva bientôt au premier rang. « Que fais-tu là, malheureux ? » dit-elle à mon oncle en lui montrant le poing. « Vous le voyez, madame, j'erre. Je suis Ahasvérus, vulgairement dit le juif errant. Comme j'ai beaucoup entendu parler dans mes voyages de la beauté de ce petit village et de l'amabilité de ses habitants, j'ai résolu d'y déjeuner. » Puis, s'approchant d'elle, il lui dit à voix basse: « Dans 5 minutes, je vous suis, mais pas un mot de plus, je vous en prie. Le mal serait irréparable. Ces imbéciles seraient capables de m'assommer s'ils découvraient que je me moque d'eux. » L'éloge de Moulot que Benjamin avait trouvé moyen d'intercaler dans sa réponse à sa sœur répara, ou plutôt parvint, l'échec que l'apostrophe imprudente de celle-ci devait lui faire essuyer, et un frémissement d'orgueil circula dans l'assemblée. « Monsieur le juif errant, fit un paysan auquel il restait peut-être encore quelques doutes, quelle est donc cette dame qui tout à l'heure vous montrait le poing? Mon bon ami, répondit mon oncle sans se déconcerter, c'est la Sainte Vierge que Dieu m'a ordonné de conduire en pèlerinage à Jérusalem sur cette bouderie. Elle est bonne femme au fond, mais un peu diseuse. Elle est de mauvaise humeur parce que ce matin elle a perdu son chapelet. Et pourquoi l'enfant Jésus n'est-il pas avec elle? Oh, Dieu n'a pas voulu qu'elle l'emmenât, parce que dans ce moment-ci, il a la petite vérole. Alors les objections fondirent dru comme grêle sur Benjamin. Mais mon oncle n'était pas homme à avoir peur des hébétés de Moulot. Le danger l'électrisait. Et il parait toutes les bottes qui lui étaient portées avec une dextérité admirable, ce qui ne l'empêchait pas, de temps en temps, de s'arroser le gosier d'un coup de vin blanc. Et pour dire la vérité, il en était déjà à sa 7e demi-bouteille. Le maître d'école du lieu, en sa qualité de savant, se présenta le premier dans la lice. « Mais comment se fait-il donc, monsieur le juif errant, que vous n'ayez pas de barbe? Il est dit dans la complainte de Bruxelles que vous êtes très barbu, et partout on vous représente avec une grande barbe blanche qui vous descend jusqu'à la ceinture. « Mais c'était trop salissant, monsieur le maître. » J'ai demandé au bon Dieu la permission de ne plus porter cette grande vilaine barbe, et il l'a fait passer dans ma queue. Mais, poursuivit le barbacole, Et comment faites-vous donc, alors, pour vous raser, puisque vous ne pouvez vous arrêter? Oh, Dieu y a pourvu, mon cher monsieur le maître. Chaque matin, il m'envoie le patron des perruques sous la forme d'un papillon, qui me rase du bout de son aile, tout en voltigeant autour de moi. Mais, monsieur le juif, poursuivit le maître d'école, le bon Dieu a été bien chiche avec vous, en ne mettant à votre disposition que 5 sous à la fois. Mon ami, riposta mon oncle en se croisant les bras sur la poitrine et en s'inclinant profondément, bénissons les décrets de Dieu. C'est probablement qu'il n'avait que cela de monnaie dans sa poche. Je voudrais bien savoir, dit le vieux tailleur de l'endroit, comment on a fait pour vous prendre mesure de votre ami, qui vous va pourtant comme un gant, puisque vous n'êtes jamais en repos. Mais vous auriez dû vous apercevoir, vous qui êtes du métier, respectable pique-prune, que cet habit n'est pas fabriqué de la main des hommes. Tous les ans, au 1er avril, il me pousse sur le dos un léger habit de serge rouge, et à la Toussaint, un habit épais de velours écarlate. Alors, dit un gamin dont la figure espiègle était inondée de tresses blondes, il faut que vous usiez considérablement. Il n'y a pas 15 jours que la Toussaint est passée et votre habit est déjà tout râpé et tout blanc sur les coutures. Malheureusement, le père du petit philosophe se trouvait à côté de lui. Va t'en voir à la maison si j'y suis, lui dit-il en lui donnant un coup de pied au derrière. Et il pria mon oncle d'excuser l'impertinence de ce petit garçon auquel son maître d'école négligeait d'apprendre sa religion. Ben, messieurs, s'écria le maître d'école. Je vous prends tous à témoin, et monsieur le juif Ferrat aussi, que Nicolas porte atteinte à ma réputation. Il attaque continuellement les autorités du village, je m'en vais le prendre par la langue. Oui, dit Nicolas, voilà une belle autorité. Attaque-moi quand tu voudras, je serai pas embarrassé pour prouver que j'ai dit vrai. Monsieur le bailli interrogea Charlot. L'autre jour, je lui ai demandé quel était le fils le plus remarquable de Jacob, et il m'a répondu que c'était Pharaon. Le maire Pinto en est témoin. Eh, messieurs, dit mon oncle, ne vous fâchez pas à cause de moi. Je serais désolé que mon arrivée dans ce beau village fît entre vous l'occasion d'un procès. La laine de mon habit n'est pas entièrement poussée, attendu que nous ne sommes qu'à la Saint-Martin. Voilà ce qui a induit le petit Charlot en erreur. Monsieur le maire ignorait cette particularité, par conséquent, il ne pouvait en instruire ses élèves. J'espère que monsieur Nicolas est content de cette explication. Chapitre 5. Mon oncle fait un miracle. Mon oncle allait lever la séance lorsqu'il aperçut une jolie paysanne qui cherchait à se frayer un passage parmi la foule. Et comme il aimait les jeunes filles au moins autant que Jésus-Christ aimait les petits-enfants, il fit signe qu'on la laissa approcher. « Je voudrais bien savoir, dit la jeune moulotate avec sa plus belle révérence, la référence qu'elle faisait au bailli, quand, allant lui porter de la crème, elle le rencontrait sur son passage, si ce que dit la vieille Goto est la pure vérité, elle prétend que vous faites des miracles. Sans doute, répondit mon oncle, quand ils ne sont pas trop difficiles. En ce cas, pourriez-vous guérir par miracle mon père, qui est malade depuis ce matin d'une maladie que personne ne connaît? Pourquoi pas, dit mon oncle. Mais avant tout, la belle enfant, il faut que vous me permettiez de vous embrasser. Sans cela, le miracle ne vaudrait rien. Et il embrassa, en effet, la jeune moulotate sur les deux joues, le damné pécheur qu'il était. Tiens, s'exclama derrière lui une voix qu'il reconnut bien, est-ce que le juif errant embrasse les femmes? Il se retourna et aperçut Manette. Mais sans doute, ma belle dame, Dieu m'a permis d'en embrasser 3 par an. Voilà la seconde que j'embrasse cette année. Si vous le voulez, vous serez la troisième. L'idée de faire un miracle enflammait l'ambition de Benjamin. Se faire passer pour le juif errant, même à Moulot, c'était beaucoup, c'était immense, c'était de quoi rendre jaloux tous les beaux esprits de Clamecy. Il prenait de suite rang parmi les mystificateurs illustres. Et l'avocat Page n'oserait plus lui parler si souvent de son lièvre changé en lapin. Qui oserait se comparer, pour l'audace et les ressources de l'imagination, à Benjamin Rattray quand il aurait fait un miracle? Et qui sait, peut-être la génération future prendrait-elle la chose au sérieux? S'il allait être canonisé, et si l'on faisait de sa personne un gros saint de bois rouge, si on lui donnait un office, une niche, une place dans l'almanach, un ora pro nobis dans les litanies, s'il devenait le patron d'une bonne paroisse, si tous les ans on lui souhaitait sa fête avec de l'encens, qu'on le couronna de fleurs, qu'on le décora de rubans, qu'on lui met un raisin mûr entre les mains, si on en chassait son habit rouge dans un reliquaire, s'il avait un marguillier pour le débarbouiller toutes les semaines, s'il guérissait de la peste ou de la rage. Mais le tout était de le mener à bien, ce miracle. Encore s'il en avait vu faire quelques-uns. Mais comment s'y prendrait-il? Et s'il échouait, il serait honni, bafoué, vilipendé, peut-être battu. Il perdrait toute la gloire de la mystification qu'il avait si bien commencée. Ah, baste, dit mon oncle en se versant un grand verre de vin pour s'inspirer. La Providence y pourvoira. Audac est fortuna iuvat. Et d'ailleurs, tout miracle demandé, c'est un miracle à moitié fait. Il suivit donc la jeune paysanne, traînant à sa suite, comme une comète, une longue queue de moulotas. Étant entré dans la maison, il vit sur son grabat un paysan qui avait la bouche de travers et semblait vouloir manger son oreille. Il demanda comment cet accident lui était survenu, si ce n'était pas à la suite d'un bâillement ou d'un éclat de rire. « Ça lui est arrivé ce matin en déjeunant, » répondit sa femme, « comme il voulait casser une noix entre ses dents. » « Très bien, » dit mon oncle, dont la figure s'illumina. « Et avez-vous appelé quelqu'un ?»« Ben, nous avons envoyé chercher M. Arnoux, qui a déclaré que c'était une attaque de paralysie. »«
Oh, on ne peut mieux. Je vois que le docteur Arnoux connaît la paralysie comme s'il l'avait inventée. Et que vous a-t-il ordonné ?»«
Ben, cette drogue qui est dans cette fiole. »
Mon oncle, ayant examiné la drogue, reconnut que c'était de l'émétique et jeta la fiole par la rue.
Son assurance produisit un excellent effet. « Je vois bien, monsieur le juif, dit la bonne femme, vous êtes capable de faire le miracle que nous vous demandons. »«
Oh, mais des miracles comme celui-là, répondit Benjamin, j'en ferais 100 par jour si j'en étais fourni. »
Il se fit apporter une cuillère de fer et en enveloppa l'extrémité de plusieurs bandes de linge fin. Il introduisit cet instrument improvisé dans la bouche du patient, souleva la mâchoire supérieure qui avait enjambé sur la mâchoire inférieure et la remit dans son lieu et place. Car ce boulotin n'avait pour toute maladie que la mâchoire détraquée. Ce que mon oncle, avec son coup d'œil gris qui s'enfonçait comme un clou dans chaque chose, avait reconnu de suite. Le paralysé du matin déclara qu'il était complètement guéri, et il se mit à manger comme un forcené d'une soupe aux choux préparée pour le dîner de la famille. Le bruit se répandit dans la foule avec la rapidité de l'éclair, que le père Pinto mangeait la soupe aux choux. Les malades et tous ceux dont la nature avait un tant soit peu altéré les formes imploraient la protection de mon oncle. La mère Pinto, toute fière de ce que le miracle avait eu lieu dans sa famille, présenta à mon oncle, pour l'aplanir, un de ses cousins qui avait l'épaule gauche comme un jambon. Mais mon oncle, qui ne voulait plus compromettre sa réputation, lui répondit que tout ce qu'il pouvait faire, c'était de faire passer la bosse de l'épaule gauche dans l'épaule droite. Que du reste, c'était un miracle fort douloureux, et que sur 10 bossus de l'espèce commune, il s'en trouvait à peine 2 qui eussent la force de le supporter. Alors il déclara aux habitants de Moulot qu'il était désolé de ne pouvoir rester plus longtemps avec eux,
mais qui n'osait faire attendre davantage la Sainte Vierge. Et il alla rejoindre sa sœur, qui se chauffait les pieds dans le cabaret de la place, et avait eu le temps de faire manger un picotin à sa bourrique. Mon oncle et ma grand-mère eurent la plus grande peine à se débarrasser de la foule, et on sonna la cloche sans qu'on pût les apercevoir sur la route. Ma grand-mère ne gronda pas Benjamin. Elle était au demeurant plus satisfaite que contrariée. La manière dont Benjamin s'était tiré de cette épreuve difficile flattait son orgueil de sœur. Elle se disait qu'un homme comme Benjamin valait bien Mademoiselle Minxit, même avec 2 ou 3 000 francs de rente par-dessus le marché. Le signalement du juif errant et de la Sainte Vierge, voire même celui du bourriquet, était déjà arrivé à la chapelle. Quand ils entrèrent dans le bourg, les femmes se tenaient agenouillées à la porte de leur maison, et Benjamin, qui savait tout faire, les bénissait. Chapitre 6. Monsieur Minxit. Monsieur Minxit accueillit très bien mon oncle et ma grand-mère. Monsieur Minxit était médecin, je ne sais pourquoi. Il n'avait pas, lui, passé sa belle jeunesse dans la société des cadavres. La médecine lui était poussée un beau jour dans la tête, comme un champignon. S'il savait la médecine, c'est qu'il l'avait inventée. Ses parents n'avaient jamais songé à lui faire faire ses humanités. Ils ne savaient que le latin de ses bocaux, et encore, s'il s'en fût rapporté à l'étiquette, il aurait souvent donné du persil pour de la ciguë. Il avait une très belle bibliothèque, mais il ne mettait jamais le nez dans ses livres. Il disait que depuis que ses bouquins avaient été écrits, le tempérament de l'homme avait changé. D'aucuns même prétendaient que tous ces précieux ouvrages n'étaient que les apparences de livres figurés avec du carton, sur le dos desquels il avait fait graver en lettres d'or des noms célèbres dans la médecine. Ce qui les confirmait dans cette opinion, c'est que toutes les fois qu'on demandait à M. Minxit à voir sa bibliothèque, il en avait perdu la clé. M. Minxit était du reste un homme d'esprit. Il était doué d'une bonne dose d'intelligence, et à défaut de science imprimée, il avait beaucoup de savoir des choses de la vie. Comme il ne savait rien, il comprit que pour réussir, il fallait persuader la multitude qu'il en savait plus que ses confrères, et il s'adonna à la divination des urines. Après 20 ans d'études dans cette science, il était parvenu à distinguer celle qui était trouble de celle qui était limpide, ce qui n'empêchait pas de dire à tout venant qu'il reconnaîtrait un grand homme, un roi, un ministre à son urine. Comme il n'y avait ni roi, ni ministre, ni grands hommes dans les environs, il ne craignait pas qu'on le prît au mot. M. Minxit avait le geste incisif. Il parlait haut, beaucoup et sans s'arrêter. Il devinait les mots qui devaient faire effet sur les paysans et savait les mettre en saillie dans ses phrases. Il avait le talent d'en imposer à la foule. Talent qui consiste dans un c'est quoi d'insaisissable, qu'il est impossible de l'écrire, d'enseigner ou de contrefaire. Talent inexplicable qui, chez le simple opérateur, fait tomber des averses de gros sous dans sa caisse, qui, chez le grand homme, gagne des batailles et fonde des empires. Talent qui, à plusieurs, a tenu lieu de génie. Que Napoléon a possédé entre tous les hommes un degré suprême, et que pour tous j'appellerais simplement charlatanisme. Ce n'est pas ma faute à moi si l'instrument avec lequel on débite du thé de Suisse est le même que celui avec lequel on se fait un trône. Dans tous les environs, on ne voulait mourir que de la main de M. Minxit. Celui-ci, du reste, n'abusait pas de ce privilège. Il n'était pas plus meurtrier que ses confrères, seulement il gagnait plus d'argent avec ses fioles de toutes couleurs qu'avec leurs aphorismes. Il s'était acquis une très belle fortune. Il avait d'ailleurs le talent de dépenser à propos son argent. Il avait l'air de donner tout, comme si cela n'eût rien coûté. Et les clients qui accouraient chez lui trouvaient toujours table ouverte. Du reste, mon oncle et M. Minxit devaient être amis aussitôt qu'ils se rencontreraient. Ces deux natures d'hommes se ressemblaient parfaitement. Elles se ressemblaient comme deux gouttes de vin, ou pour me servir d'une expression moins désobligeante pour mon oncle, comme deux cuillères jetées dans le même moule. Ils avaient les mêmes appétits, les mêmes goûts, les mêmes passions, la même manière de voir, les mêmes opinions politiques. Ils se souciaient peu, tous deux, de ces 1000 petits accidents, de ces 1000 catastrophes microscopiques, dont nous autres sots, nous nous faisons de si grandes infortunes. Celui qui n'a point de philosophie au milieu des misères d'ici-bas, c'est un homme qui va être nu sous une averse. Et le philosophe, au contraire, a sur le chef un bon parapluie qui le met à l'abri de l'orage. Telle était leur opinion. Ils regardaient la vie comme une farce, et ils y jouaient leur rôle le plus gaiement possible. Ils avaient un souverain mépris pour ces gens mal avisés qui font de leur existence un long sanglot. Ils voulaient que la leur fût un éclat de rire. L'âge n'avait mis de différence entre eux que quelques rides. C'étaient deux arbres de même espèce, dont l'un est vieux et l'autre dans toute la vigueur de sa sève, mais qui se parent tous deux des mêmes fleurs et qui produisent les mêmes fruits. Aussi le beau-père futur avait-il pris son gendre dans une prodigieuse amitié, et le gendre professait-il pour le beau-père une haute estime, ses fioles exceptées. Cependant, mon oncle n'acceptait l'alliance de M. Minxit qu'à son corps défendant, par un effort de raison et pour ne pas désobliger sa chère sœur. M. Minxit, parce qu'il aimait Benjamin, trouvait tout naturel qu'il fût aimé de sa fille, car tout père, si bon qu'il soit, s'aime lui-même dans la personne de ses enfants. Il les regarde comme des êtres qui doivent contribuer à son bien-être. Et s'il se choisit un gendre, c'est d'abord beaucoup pour lui, et ensuite un peu pour sa fille. Quand il est avare, il la met entre les mains d'un fesse-matieu. Quand il est noble, il la soude à un écusson. S'il aime les échecs, il la donne à un joueur d'échecs. Car il faut bien, sur ses vieux jours, qu'il ait quelqu'un pour faire sa partie. Sa fille, c'est une propriété indivise qu'il possède avec sa femme. Que la propriété soit enclose d'une haie fleurie ou d'un vilain grand mur à pierre sèche, qu'on lui fasse produire des roses ou des colzas, cela ne le regarde pas. Elle n'a pas d'avis à donner à l'agronome expérimenté qui la cultive. Elle est inhabile à choisir les graines qui lui conviennent le mieux. Pourvu que ses bons parents trouvent dans leur âme et conscience leur fille heureuse, cela suffit. C'est à elle à s'arranger de sa condition. Chaque soir, la femme, en faisant ses papillotes, et le bonhomme, en mettant son bonnet de coton, s'applaudissent d'avoir si bien marié leur enfant. Elle n'aime pas son mari, mais elle s'habituera à l'aimer. Avec de la patience, on vient à bout de tout. Ils ne savent pas ce que c'est pour une femme qu'un mari qu'elle n'aime pas. C'est un fétu ardent qu'elle ne peut chasser de son œil. C'est une rage de dents qui ne lui laisse pas un moment de repos. Quelques-unes se laissent mourir à la peine. D'autres vont chercher ailleurs l'amour qu'elles ne peuvent se procurer avec le cadavre auquel on les a attachées. Celle-ci glisse doucettement à cet époux fortuné une pincée d'arsenic dans son potage et font écrire sur sa tombe qui laisse une veuve inconsolable. Voilà ce que produisent la faillibilité prétendue et l'égoïsme déguisé des bons parents. Si une jeune fille voulait épouser un singe naturalisé homme et français, le père et la mère n'y voudraient pas consentir. Il faudrait bien certainement que le Jocko leur fît des sommations respectueuses. Vous dites-vous, voilà de bons parents, ils ne veulent pas que leur fille se rende malheureuse. Ah, moi je dis, voilà de détestables égoïstes. Rien n'est plus ridicule que de mettre votre manière de sentir à la place de celle d'un autre. C'est vouloir substituer votre organisation à la sienne. Cet homme veut mourir, c'est qu'il a de bonnes raisons pour cela. Cette demoiselle veut épouser un singe, c'est qu'elle aime mieux un singe qu'un homme. Et pourquoi lui refuser la faculté d'être heureuse à sa fantaisie? Qui a le droit, quand elle se trouve heureuse, de lui soutenir qu'elle ne l'est pas? Ce singe l'égratignera en la caressant. Et qu'est-ce que cela vous fait à vous? C'est qu'elle aime mieux être égratignée que caressée. Si d'ailleurs son mari l'égratigne, ce n'est pas la joue de sa maman qu'elle saignera. Qui trouve mauvais que la demoiselle des marais voltige le long des roseaux plutôt qu'entre les rosiers des parterres? Le brochet reproche-t-il à l'anguille, sa commère, de se tenir sans cesse au fond de la vase plutôt que de venir à l'eau courante qui bouillonne à la surface du fleuve? Savez-vous pourquoi ces bons parents refusent leur bénédiction à leur fille et à son Jocko? Le père, c'est qu'il veut un gendre qui soit peut-être électeur avec lequel il puisse parler littérature ou politique. La mère, c'est qu'il lui faut un beau jeune homme qui lui donne le bras, qui l'amène au spectacle et qui la conduise à la promenade. Monsieur Banksit, après avoir décoiffé avec Benjamin quelques-unes de ses meilleures bouteilles, le conduisit dans sa maison, dans sa cave, dans ses granges, dans ses écuries. Il le promena dans son jardin et le força de faire le tour d'une grande prairie arrosée d'une source vive et plantée d'arbres qui s'étendait derrière l'habitation et à l'extrémité de laquelle un ruisseau formait un vivier. Tout cela était très convoitable. Malheureusement, la fortune ne donne rien pour rien, et en échange de tout ce bien-être, il fallait épouser Mademoiselle Manxit. Bon, au demeurant, Mademoiselle Manxit en valait bien une autre. Elle n'était trop longue de 20 lignes, elle n'était ni brune ni blanche, ni blonde, ni rousse, ni sotte, ni spirituelle. C'était une femme comme sur 30, il y en a 25. Elle savait parler très pertinemment de 1000 petites choses insignifiantes et faisait très bien les fromages à la crème. C'était bien moins elle que le mariage en général qui répugnait à mon oncle. Et si au premier abord elle lui avait déplu, c'est qu'il l'avait vue sous la forme d'une grosse chaîne. « Eh bien, voilà ma propriété, » dit M. Manxit. « Quand tu seras bon gendre, elle sera nous deux, et ma foi, quand je n'y serai plus... Ben, »« Entendons-nous, » dit mon oncle. « Êtes-vous bien sûr que Mademoiselle Arabelle n'a aucune répugnance à m'épouser ?»« Pourquoi en aurait-elle ? Tu ne te rends pas justice, Benjamin ? N'es-tu pas un joli garçon entre tous ? N'es-tu pas aimable quand tu le veux et autant que tu le veux ? N'es-tu pas homme d'esprit par-dessus le marché? Il y a du vrai dans ce que vous dites, monsieur Manxit. Mais les femmes sont capricieuses, et je me suis laissé dire que mademoiselle Arabelle avait une inclination pour un gentilhomme de ce pays, un certain de Pontcassé. Oh, bro, dit monsieur Manxit, oh, une espèce de mousquetaire qui a mangé en chevaux fins et en habits brodés de beaux domaines que lui avait laissé son père. Eh bien, la vérité, demandait Arabelle, mais j'ai rejeté sa proposition d'une lieue. En moins de 2 ans, il y dévorait ma fortune. Tu conçois que je pouvais donner ma fille à un pareil être. Avec cela, c'est un duelliste forcené. Par compensation, un de ces jours, il eût débarrassé Arabelle de sa noble personne. « Vous avez raison, monsieur Banksit, mais enfin, si cet être était aimé d'Arabelle... »« Fuis donc, Benjamin! Arabelle a dans les veines trop de bon sang pour s'abrocher d'un vicomte. Ce qu'il me faut à moi, c'est un enfant du peuple, un homme comme toi, Benjamin, avec lequel je puisse rire, boire et philosopher. Un médecin habile qui exploite avec moi ma clientèle et supplée par sa science à ce que n'aura pu nous révéler la divination des urines. Ah, un instant, dit mon oncle. Je vous préviens, monsieur Manxit, que je ne veux pas consulter les urines. Et pourquoi, monsieur, ne voulez-vous pas consulter les urines? Va, Benjamin. C'était un homme d'un grand sens, cet empereur, qui disait à son fils, « Est-ce que ces pièces d'or sentent l'urine ?»« Si tu savais tout ce qu'il faut de présence d'esprit, d'imagination, de perspicacité, même de logique, pour consulter les urines, oh, tu ne voudrais faire d'autre métier de ta vie. On t'appellera charlatan peut-être, mais qu'est-ce qu'un charlatan? Un homme qui a plus d'esprit que la multitude. Et je te le demande, est-ce la bonne volonté qui manque ou l'esprit à la plupart des médecins pour tromper leurs clients? Bien, voilà mon fifre qui vient probablement m'annoncer l'arrivée de quelques fioles. Je vais te donner un échantillon de mon art. Eh bien, fifre, dit M. Manxit au musicien, qu'y a-t-il de nouveau? C'est, répondit celui-ci, un paysan qui vient vous consulter. Et Arabelle a-t-elle fait jaser? Oui, M. Manxit. Il vous apporte de l'urine de sa femme, qui est tombée sur un perreau et a roulé 4 ou 5 marches. Mademoiselle Arabelle ne se rappelle pas au juste le nombre. Diable, fit M. Manxit. Oh, c'est bien maladroit de la part d'Arabelle. Bon, se dégage, je remédierai à cela. Benjamin, va m'attendre dans la cuisine avec le paysan. Tu sauras ce que c'est qu'un médecin qui consulte les urines. M. Manxit rentra dans sa maison par la petite porte du jardin, et 5 minutes après, il arrivait dans sa cuisine, harassé, courbaturé, une cravache à la main et revêtu d'un manteau crotté jusqu'au collet. « Ouf !» dit-il en se jetant sur une chaise. « Quels abominables chemins ! Je suis brisé. J'ai fait ce matin plus de 15 lieues. Allez, qu'on me débotte bien vite et qu'on me bassine mon lit. « Monsieur Manxit, je vous en prie, lui dit le paysan, lui présentant sa fiole. « Oh, va-t'en au diable avec ta fiole, dit Monsieur Manxit. Tu vois bien que j'en peux plus. Voilà comme vous êtes tous, c'est toujours au moment où j'arrive de campagne que vous venez me consulter. « Mon père, dit Arabelle, cet homme aussi est fatigué. Ne le forcez pas à revenir demain. » « Eh ben, voyons donc la fiole !» dit M. Manxit d'un air extrêmement contrarié, et s'approchant de la fenêtre. « Oh, cela, c'est de l'urine de ta femme, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, M. Manxit, dit le paysan. « Bon, elle a fait une chute !» dit le docteur, examinant de nouveau la fiole. « Eh ben, voilà qui on ne peut mieux deviner !» Sur un perron, n'est-il pas vrai? Mais vous êtes donc sorcier, monsieur Manxit. Elle a roulé 4 marches. Ah, cette fois, vous n'y êtes plus, monsieur Manxit. Elle en a bien roulé 5. Allons donc, c'est impossible. Va recompter les marches de ton perron. Tu verras qu'il n'y en a que 4. Mais je vous assure, monsieur, qu'il y en a 5, et qu'elle n'en a pas évité une. « Voilà qui est étonnant, dit M. Manxit, examinant de nouveau la fiole. Cependant, il y a bien là-dedans que 4 marches. À propos, m'as-tu apporté toute l'urine que ta femme t'avait remise? J'en ai jeté un peu à terre parce que la fiole était trop pleine. Oh, mais je ne suis plus surpris si je ne trouvais pas mon compte. Voilà la cause du déficit. C'est la 5e marche que t'es renversée, maladroit. Alors nous allons traiter ta femme comme ayant roulé 5 marches d'un perron. » Et il donna aux paysans 5 ou 6 petits paquets et autant de fioles le tout étiqueté en latin. J'aurais cru, dit mon oncle, que vous auriez d'abord pratiqué une abondante saignée. Oh, si c'eût été une chute de cheval, une chute d'arbre, une chute sur la route, oui, mais une chute sur un perron. Voilà toujours comme ça se traite. Une jeune fille vint avérer le paysan. Eh bien, lui dit le docteur, comment va ta mère?
Beaucoup mieux, monsieur Minxit, mais elle ne peut reprendre ses forces, et je venais vous demander ce qu'elle doit faire.
Tu me demandes ce qu'il faut lui faire, et je parie que vous n'avez pas le sou pour acheter des remèdes.
Hélas, non, mon bon monsieur Minxit, car mon père n'a plus d'ouvrage depuis 8 jours.
Alors pourquoi diable ta mère s'avise-t-elle d'être malade?
Oh, soyez tranquille, monsieur Minxit. Aussitôt que mon père travaillera, vous serez payé de vos visites. Il m'a bien chargé de vous le dire.
Bon, voilà encore une autre sottise. Il est donc fou, ton père, de vouloir me payer mes visites quand il n'a pas de pain. Mais pour qui me prend-on donc, ton imbécile de père? Tu iras ce soir avec ton âne chercher un sac de mouture à mon moulin, et tu vas emporter un panier de vin vieux avec un quartier de mouton. Voilà pour le moment ce qu'il faut à ta mère. Et si d'ici 2 à 3 jours ses forces ne reviennent point, tu me le feras dire. Va, mon enfant. Eh bien, dit monsieur Minxit à Benjamin, comment trouves-tu la médecine des urines? Vous êtes un brave et digne homme, monsieur Minxit. Voilà ce qui vous excuse. Mais diable, vous ne ferez toujours pas traiter une chute de perron autrement que par la saignée. Alors, tu n'es qu'un conscrit en médecine. Tu ne sais pas qu'il faut des drogues aux paysans, sinon ils croient que vous les négligez. Eh bien, donc, tu ne consulteras pas les urines. Mais c'est dommage. Tu aurais fait un joli sujet.